Le journal présenté par Théo Hetsch.
Bonsoir. 4 jours avant les élections européennes, France 2 organise une soirée de débat avec 15 des 34 listes candidates. Au cœur des débats, notamment le libre-échange et l'écologie. Au procès Balkany, 6e jour et retour sur les origines de l'aventure offshore et sur celui qui, le premier, a accusé le maire de Levallois de fraude fiscale et blanchiment. Le maréchal Haftar reçut à l'Élysée aujourd'hui l'homme fort de l'Est libyen qui attaque Tripoli. Emmanuel Macron espérait le convaincre de déposer les armes. C'est de toute évidence raté. Les Boeing 737 MAX pourront-ils voler cet été? L'agence américaine de l'aviation veut convaincre ses homologues que la sécurité est assurée. Notre invité est un spécialiste de la sécurité aérienne. Et puis autre géant américain en difficulté, l'équipementier Nike renonce à sortir une nouvelle basket. Des Indiens du Panama l'accusent d'avoir copié un de leurs motifs tribaux. Ils sont 6 sur un plateau, les 6 principaux candidats ou leurs représentants aux élections européennes. Grand débat ce soir sur France 2 et chez nos confrères de France Inter. Et déjà, les débats sur l'Europe du quotidien ou l'Europe ouverte ou fermée ont donné lieu à des passes d'armes, comme sur le libre-échange entre Laurent Wauquiez pour les Républicains et Manon Aubry, tête de liste de la France Insoumise.
L'Europe est sans doute le continent au monde qui fait le plus d'efforts en matière de pollution. Et on ne s'occupe pas, à l'inverse, des produits importés qui, eux, sont fabriqués dans des pays qui polluent l'air. Nous, ce qu'on veut en matière de développement durable, c'est qu'on se fixe des priorités. Les priorités, c'est d'abord de retrouver la maîtrise par rapport aux importations de pays qui ne respectent pas nos règles. Et donc, ce qu'on propose, c'est une barrière écologique, avec une taxe permettant de pénaliser les produits qui ont été fabriqués dans des pays qui ne respectent pas nos normes de pollution de l'air, de pollution de l'eau, pour retrouver
l'équilibre. Pourquoi vous votez les accords de libre-échange, alors ?
Mais parce que précisément, je vous rappelle que sur la Chine, nous avons refusé, Madame Aubry. Vous me posez une question, est-ce que je peux vous répondre ? Nous avons refusé que la Chine se voit reconnue.
Avez-vous voté l'accord avec le Canada ?
Nous avons refusé que la Chine se voit reconnue la question de l'économie de marché. Vous prenez un mauvais exemple. Je crains que le Canada soit plutôt en matière écologique un exemple.
Tout le monde pourra vérifier. Ça a conduit à l'augmentation du transport de marchandises entre le Canada et la France et donc à de la pollution.
Et comme sur LCI lundi, ce débat est en 2 parties. En 2e partie de soirée, débattront 9 autres candidats donnés sous la barre des 5%. Ils ne pensaient pas devoir voter à ces élections européennes. Ils seront finalement les premiers à glisser leur bulletin dans l'urne. Les Britanniques ouvrent le bal demain avec les Néerlandais. Les suivants à voter, ce seront les Irlandais vendredi. Au Royaume-Uni, justement, le 4e projet de Brexit de Theresa May risque de terminer comme les 3 premiers, rejetés. C'est en tout cas ce que croit la ministre chargée des relations avec le Parlement, Andrea Leadsom. Elle remet sa démission à Theresa May ce soir. Depuis hier, de nombreux élus ont annoncé qu'ils rejetteraient ce nouveau projet de Brexit. Et il demande à la chef du gouvernement de partir. Elle devrait être fixée sur son sort après-demain, vendredi. Elle doit rencontrer le comité 1922, instance qui réunit tous les députés conservateurs. Et puis 500 personnalités du cinéma de toute l'Europe appellent justement à voter à ces élections européennes. Réunis au festival de Cannes, ces cinéastes, dont le britannique Stephen Frears, les français Jacques Audiard et les frères Dardenne, appellent à, je cite, « s'engager et mener le combat des idées pour éviter celui des armes », écrivent-ils. Elle s'appelle Julia, 31 ans, elle a été agressée place de la République à Paris il y a 2 mois. Aujourd'hui, son agresseur a écopé de 10 mois de prison, dont 6 mois ferme. L'agression, filmée et diffusée sur les réseaux sociaux, avait mis en lumière les violences transphobes. L'homme devra également verser 3000 euros de dommages et intérêts à la victime. Après la fraude fiscale, le blanchiment, le procès Balkany acte 2 se poursuit. Le tribunal correctionnel s'est plongé aujourd'hui dans les montages financiers offshore des époux de la Suisse au Panama ou à Singapour. Et pour cela, retour sur les révélations en 2013 d'un ancien allié, Didier Schuller. Cet ancien directeur de l'office HLM des Hauts-de-Seine avait lancé les premiers soupçons des enquêteurs. Le récit de Florence Sturm.
Il est celui par qui l'affaire a éclaté. En octobre 2013, Didier Schuller est entendu comme témoin par un juge d'instruction. Il désigne Patrick Balkany comme le trésorier officieux du RPR. « J'ai payé ma dette », ajoute-t-il. « Je constate que Monsieur Balkany s'en est bien mieux sorti. Ce que je pensais être du financement politique a servi à des fins personnelles. » Il évoque des dépenses de campagne faramineuses en 82, avant l'élection à la mairie de Levallois, et énumère les propriétés des époux Balkany. Didier Schuller n'a pas été cité comme témoin au procès et pas Patrick Balkany s'en indigne. C'est un mythomane de la pire espèce, tout ça parce qu'on ne lui a pas donné l'investiture au municipal de 2014. Ce serait donc une vengeance personnelle à votre égard, intervient froidement le président du tribunal. Je trouve quand même étonnant que la justice attache autant d'importance à ces déclarations, riposte le prévenu. Il a été l'homme en fuite le plus recherché de France, celui qui a fait changer le cours d'une élection présidentielle. Allusion claire à la défaite d'Édouard Balladur en 95, mais le premier compte suisse ouvert en 94 par Patrick Balkany s'affiche sur l'écran de la salle d'audience. Un compte destiné à financer un emprunt soutient Patrick Balkany qui n'a aucun souvenir d'y avoir déposé des fonds. Pas même 200 000 francs en espèces, 400 coupures de 500 francs, questionne le président. Non, répète le maire de Levallois. Aucun souvenir.
Florence Sturm pour France Culture. 6 mois de prison avec sursis requis contre le gilet jaune qui avait insulté le philosophe Alain Finkielkraut. C'était en février, il lui avait lancé des injures antisémites. La France est à nous, ou espèce de sioniste, avait lancé cet homme de 36 ans. Pour le procureur, c'est une démonstration de haine et d'antisémitisme qui se cache derrière un antisionisme. La décision a été remise en délibéré au 12 juillet. Le syndicat national des journalistes dénonce un nouveau coup de canif contre le journalisme et la liberté d'informer. Le syndicat réagissait à l'annonce de la convocation de la journaliste du Monde, Ariane Chemin. Elle est convoquée par la DGSI, les renseignements intérieurs, pour ses articles sur l'affaire Benalla. Journée cruciale pour Boeing demain et ses 737 MAX cloués au sol depuis les crashs d'Ethiopian Airlines et de Lion Air, des crashs qui ont fait 346 morts. Opération reconquête pour le constructeur et pour le régulateur aérien américain, la FAA, accusée d'avoir tardé à réagir. La FAA reçoit demain au Texas des représentants de 33 pays, dont l'Union européenne, le Canada et la Chine, pour les convaincre que les failles de sécurité sont résolues. Bonsoir, bonsoir Xavier Tittelmann.
Bonsoir.
Vous êtes ancien aviateur militaire, spécialiste en sécurité aérienne et consultant chez CGI. D'abord, en quoi cette réunion est-elle importante pour Boeing et pour la FAA ?
Alors là, c'est surtout la FAA qui est sur le grill parce que, alors évidemment, Boeing a fait une erreur, c'est évident, mais la FAA l'a fait passer. Habituellement, il y a une forme de réciprocité. C'est-à-dire que quand on a un avion qui est validé dans un grand pays aéronautique, comme par exemple l'Europe ou les États-Unis, il est accepté dans tous les autres pays. C'est pas forcément le cas, par exemple, pour certains avions chinois qui sont autorisés en Chine et pas dans les autres pays. Donc là, la première question, c'est est-ce que la FAA est capable de prouver que finalement, toutes ces erreurs sont passées? Que maintenant ils vont revérifier systématiquement, correctement l'intégralité des nouveautés qui sont mises sur les avions, parce que c'est bien ça qu'ils leur est reproché. Ils ont accepté que Boeing auto-certifie une certaine partie de leur appareil, évidemment, qui a provoqué des accidents. Donc Boeing n'est même pas invité demain. C'est vraiment la FAA qui est avec ses homologues et qui va essayer de prouver qu'elle est capable de remettre en place des avions et des certifications qui sont tout à fait sécurisées.
Et quels arguments va présenter la FAA pour dire que les choses ont changé ?
Alors je pense surtout qu'ils vont faire une autocritique, qu'ils vont être totalement transparents sur ce qui s'est passé, sur le fait que peut-être qu'ils avaient été trop loin dans la gestion autonome par Boeing de ses capacités à valider ses appareils d'une manière autonome. Ils vont s'engager à vérifier systématiquement, et je pense notamment ce qu'on appelle les lois de vol, c'est-à-dire tout ce qui va toucher aux commandes. Ça sert à rien de vérifier tout le système de divertissement en vol, par exemple. C'est des millions de lignes de code, pourtant. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une partie de la certification qui pourra être faite d'une manière autonome par Boeing pour les parties qui ne sont pas indispensables, mais on ne peut plus accepter qu'il y ait 90% d'un avion qui soit auto-certifié. Et donc, ces parties-là qui sont cruciales, qui sont fondamentales, chaque évolution doit être discutée, doit être réfléchie et doit être validée par le régulateur.
Les Boeing 737 MAX sont interdits de vol depuis à peu près 70 jours, il me semble, dans tout un tas de pays.
Depuis l'accident, oui.
Voilà. Quels impacts ont ces interdictions de vol pour Boeing ?
Alors, il y a des impacts un peu pour tout le monde. Déjà, évidemment, Boeing, le constructeur, ne peut plus livrer ses appareils, sauf qu'ils ont une chaîne d'approvisionnement qui est tendue, qu'ils continuent à produire, que leurs parkings sont pleins, qu'ils ne savent plus où mettre leurs avions. Et il y a des coûts qui sont phénoménaux. Parce qu'une fois que l'avion est produit, la compagnie commence à payer des taxes dessus, sauf qu'elle ne peut pas les vendre, elle ne peut pas s'en débarrasser. Donc déjà, elle paye des taxes à la place des compagnies aériennes. Évidemment, pour son image, on est sur une situation qui est totalement désastreuse. Il y a des centaines de milliers d'heures d'ingénieurs qui vont devoir corriger cet avion et mettre une nouvelle version qui va être correcte, acceptée et totalement fiable. Donc ça aussi, c'est du travail et des investissements colossaux. Il y a les compagnies aériennes qui ont du mal parce qu'évidemment, vous avez quand même des centaines d'avions qui ne peuvent pas voler et qui devaient assurer entre 6 et 8 vols par jour. C'est des avions qui volent quand même 18 heures par jour à peu près en général. Et ces avions-là, il faut bien les compenser. Donc on n'était pas dans la période d'été, estival, on avait des avions qui étaient disponibles parce que la flotte mondiale n'est pas exploitée à 100%. Donc les compagnies ont dû louer des avions aux autres concurrents qui n'utilisaient pas totalement leur flotte. Sauf que cet été, c'est là que ça va être problématique, la flotte est notamment utilisée à 100%. Et là, il n'y aura plus de réserve. Et les compagnies ont commencé déjà à demander aujourd'hui une compensation de ces surcoûts, des locations, des pertes de clients, des vols annulés. Et là, ça va se chiffrer encore une fois en milliards de dollars pour Boeing.
Est-ce que justement, on peut imaginer qu'après ces réunions, et notamment pour cet été, les Boeing 737 MAX pourraient être autorisés à nouveau à voler?
Ce serait très très court, ce serait assez étonnant, notamment parce qu'encore une fois, la FAA veut prouver qu'elle ne va plus être dans la rapidité pour une question de concurrence, clairement, entre Airbus et Boeing. La FAA va vouloir surtout demain obtenir l'aval de ses homologues en disant, si je le certifie, faites-moi confiance, ne refaites pas une nouvelle certification, parce qu'actuellement, on est dans une situation où les autres grandes nations, c'est-à-dire le Canada et l'Europe notamment, ont dit, vous allez le certifier, mais nous aussi, on va le certifier l'avion.
Ce qui, j'imagine, prend du temps.
Évidemment, ça prend des semaines et des mois. Il y a aussi la question de la formation sur laquelle ils vont devoir réfléchir. Les États-Unis disent, nous on pense qu'une formation théorique sur les évolutions sont suffisantes. Les Canadiens veulent absolument qu'il y ait du simulateur de vol sur la nouvelle version, ce qui aujourd'hui n'était pas indispensable. Mmh. Il va falloir trancher, il va falloir des évolutions. Si l'avion vole avant la fin du mois d'août, ce serait vraiment un exploit, mais c'est l'objectif que se sont donné les Américains.
Merci Xavier Tittelmann, spécialiste en sécurité aérienne et consultant chez CGI. Le groupe sidérurgiste British Steel a été placé en redressement judiciaire. Inquiétude au Royaume-Uni, mais aussi à la scierie Ascoval de Saint-Saulve dans le Nord, tout juste rachetée par British Steel. Le gouvernement français assure qu'il n'y aura pas de conséquences côté français. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, recevra demain les représentants du personnel. Au Brésil, les civils ne pourront pas porter de fusil d'assaut. Le président Jair Bolsonaro a cédé face aux critiques et modifié certains points de son décret sur les armes à feu. Les fusils d'assaut notamment étaient autorisés dans la version précédente. Les conditions d'un cessez-le-feu en Libye ne sont pas réunies. La réponse sèche du général Haftar à Emmanuel Macron. Les deux hommes se sont rencontrés aujourd'hui à Paris. Le président de la République souhaite un arrêt des hostilités le plus tôt possible. Mais le maréchal refuse de faire des concessions. Franck Madvon.
Les conseillers élyséens ont beau croire encore à une issue politique à la crise, rien dans la rencontre qui s'est tenue aujourd'hui à Paris n'invite à l'optimisme. Devant Emmanuel Macron, le maréchal Haftar, flanqué d'un conseiller, a d'abord longuement justifié son offensive lancée début avril contre Tripoli. Pour lui, les terroristes tiennent la capitale. C'est ainsi qu'il qualifie les milices qui soutiennent le gouvernement Sarraj, reconnu par la communauté internationale. Il se devait donc d'intervenir, ses troupes étant à ses yeux l'armée légitime du peuple libyen. La France espère un cessez-le-feu, un processus politique, mais Haftar demande d'abord le démantèlement de ses milices. Il estime n'avoir aucun interlocuteur fiable. L'Élysée le reconnaît, la situation est très délicate, la défiance n'a jamais été aussi grande entre les acteurs libyens. D'après un témoin de la rencontre, Haftar entrouvre une porte. Oui, il faut dialoguer, dit-il, mais il la referme aussitôt. Dans les conditions actuelles, je ne suis pas prêt à faire de concessions.
Franck Madvon pour France Culture. 28 femmes yézidis et leurs enfants sont attendus ce soir en France. Ils vont rejoindre 16 premières familles déjà accueillies. Cette minorité kurde a été pourchassée en Irak par le groupe État islamique. En Indonésie, plusieurs morts au lendemain de la réélection du président Joko Widodo. 6 manifestants ont été tués dans des heurts avec les forces de l'ordre, plusieurs centaines de blessés. Les partisans de l'opposant battu Subianto contestent le résultat de l'élection. Ils dénoncent des fraudes. Quand des peuples indiens font reculer le géant américain de l'abîme en Nike, des indiens Kuna du Panama ont accusé hier l'industriel d'avoir copié illégalement des dessins traditionnels pour un modèle de basket. L'équipementier a donc reculé et annulé la sortie de ses chaussures. Ils sont accusés de violation de la propriété intellectuelle. Olivier Poujade.
S'approprier la créativité et les symboles traditionnels de peuples indigènes à des fins commerciales, certaines grandes firmes sont apparemment coutumières du fait. Le débat existe, en tout cas, au sein de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Jusqu'ici, aucune mesure n'a été prise pour empêcher ce type de pillage. Mais hier, l'accusation devant la presse du chef indien Kuna a contraint le géant américain à renoncer à la mise en vente d'une paire de baskets recouvertes d'un tissu multicolore en tout point similaire au Mola, costume de cette communauté vivant en Colombie et au Panama sur l'île caribéenne de San Blas. Officiellement, l'équipementier a présenté le modèle Air Force One Puerto Rico comme un hommage à la grenouille coquille, espèce emblématique de l'île, avant de reconnaître que sa représentation était inexacte. Dans son accusation, le chef de la communauté Kuna a pris soin de souligner que ce cas était loin d'être isolé. Selon lui, des milliers de dessins et de savoir-faire des peuples autochtones sont aujourd'hui piratés par les multinationales.
Olivier Poujade pour France Culture. Une trentaine de tornades en deux jours. L'État d'Oklahoma aux États-Unis prend de plein fouet la saison des ouragans. Des centaines d'habitants ont aussi dû être évacués à cause des inondations. La météo en France, c'est heureusement plus calme, mais les nuages domineront demain. D'abord à l'ouest le matin, de la Normandie aux Hauts-de-France. Et au fil des heures, ils gagneront l'ensemble du pays. 5 à 16 degrés demain le matin pour les températures. Les maximales en hausse, 18 à Cherbourg, 23 à Strasbourg et Paris, jusqu'à 27 degrés à Nîmes.